Elle a fait des cauchemars. Elle voyait les enfants essayer de sortir de leur lit sans y parvenir. L'homme assis dans le salon ouvrait brusquement les yeux et c'était lui qui la regardait fixement et il lui souriait. Il y a bien longtemps qu'elle ne se réveille plus en tremblant et qu'elle ne craint plus d'avoir crié dans son sommeil. Il y a bien longtemps qu'elle affronte l'énigme sans plus espérer la résoudre parce que les mobiles n'éclairent rien et qu'ils ne l'intéressent plus. Au beau milieu d'un repas de famille, l'année de mes 35 ans, à la fin d'un mois de juillet que j'aimerais effacer de ma mémoire, mon père se plaignit de maux de tête soudain. Il repoussa sa chaise, se leva, fit quelques pas en direction du salon en se massant les tempes et se retourna vers nous en nous regardant avec un air de franche stupeur. Son visage devint pourpre, puis tout à fait violet. Et il tomba, en heurtant violemment la coudoire en châtaignier d'un fauteuil dans sa chute. Une ambulance le conduisit à l'hôpital. Ma mère, mon oncle et ma tante, Catalina et moi, attendîmes à l'accueil qu'un médecin vint nous annoncer, au bout de 2 heures, que mon père avait été victime d'un AVC et souffrait également de plusieurs fractures. Ma mère demanda à quoi nous devions nous attendre. Il lui fut répondu par une grimace dubitative et de vagues gestes de la main, scandant un flot de baratin sur le manque de fiabilité des prédictions de la médecine que l'heureuse évolution de l'état de santé des malades venait parfois démentir, même quand le pire semblait presque certain. Rétrospectivement, il est assez clair que le médecin venait de nous annoncer avec la sournoiserie caractéristique de ses semblables, mais sans grande subtilité dans son maniement de l'euphémisme, que mon père était foutu, et qu'à moins d'une intervention divine à laquelle nous étions libres de croire, nous pouvions sans plus attendre prendre la tâche d'une entreprise de pompe funèbre. Mais sur le coup, personne ne le comprit. Tout l'après-midi, je restais avec ma mère au chevet de mon père, qu'on avait relié à une machine bourdonnante et à diverses poches de plastique transparent, et qui gisait inconscient, les yeux étrangement mi-clos. Ma mère lui tenait la main. De temps en temps, elle se penchait sur lui pour déposer un baiser sur son front. Elle demanda à passer la nuit à ses côtés. Je lui proposai, à vrai dire assez mollement, de rester, moi aussi. Mais elle refusa et me suggéra d'aller me changer les idées. Je dois dire que je suivis le conseil à la lettre. Après un bref mais douloureux conflit interne qui s'acheva par la défaite complète de ma conscience morale, je débarquai au Bamboléo vers 11 heures du soir. Django parut fort surpris de me voir et vint me demander comment j'allais en s'excusant de ne pas avoir pu passer à l'hôpital. Je lui répondis que je ne me sentais pas capable de supporter la solitude et que j'avais besoin de la compagnie de mes amis. Django me serra chaleureusement dans ses bras. Je n'étais à vrai dire pas très fier de moi. Ce que j'avais dit n'était bien sûr pas entièrement faux, mais j'avais soigneusement tu les arguments qui m'avaient moi-même permis de me forger une notion certes pratique, mais très contestable de la piété filiale. Je ne faisais de mal à personne, surtout pas à mon père, lequel aurait par ailleurs certainement souhaité que je ne me laisse pas abattre et que je profite de la vie, et c'était d'ailleurs pour lui qu'il me fallait tout faire pour garder le moral, pour rester fort afin de l'assister efficacement, ainsi que ma mère, dans les épreuves que nous traversions. Bref, à force de sophisme, j'en étais presque arrivé à penser que prendre une cuite le soir de son hospitalisation relevait de l'impératif moral dans sa plus noble manifestation. Je bus quelques verres au comptoir avec Betsabé en affichant un air sombre à intervalles réguliers et je finis par m'asseoir dans un box vide avec une bouteille et un seau à glaçons. J'étais donc passablement bourré quand vers 1 heure du matin, une touriste vint s'asseoir à côté de moi et commença à me parler en anglais. C'était une blonde, plutôt massive, d'une 50aine d'années. Elle était australienne. Et elle avait pris une année sabbatique pour se lancer en compagnie d'une amie qui avait préféré se coucher tôt ce soir-là dans un tour du monde commencé 4 mois plus tôt. Elle sembla ravie d'apprendre que, comme elle le soupçonnait, j'étais bel et bien un indigène, et elle entreprit de me poser des questions sur la culture et la vie locale, questions auxquelles je répondis tant bien que mal, dans un sabir affreux mais apparemment intelligible. Je ne me souviens guère de la conversation au demeurant sans intérêt, mais je me rappelle vivement le moment où je prends conscience que sa main me pétrit de jeûne.